Les acteurs de la Pierre Papier, une émission présentée par Frédéric Tixier, rédacteur en chef de pierrepapier.fr.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous recevons aujourd'hui Daniel Weil. Daniel, bonjour.
Bonjour Frédéric.
Alors je rappelle que tu es directeur recherche et stratégie chez Aurial. Aurial, c'est un gestionnaire d'actifs immobiliers bien connu pour son positionnement et je dirais même son engagement sur l'immobilier de santé. Ce segment de l'immobilier d'ailleurs a à nouveau attiré les investisseurs en 2025. 20 milliards ont été investis l'an dernier au niveau européen. Après, on va dire 3 ans de relative stagnation. Est-ce que ce rebond, notamment du secteur dit du nursing home, est-il durable?
La réponse est oui. C'est vrai que le chiffre que tu cites des 20 milliards d'euros donc investis en Europe, y compris le Royaume-Uni, en 2025 est un peu en trompe-l'œil puisqu'il y a quelques opérations exceptionnelles, notamment au Royaume-Uni, par Welltower, par Omega, qui ont gonflé ce chiffre. Mais même en retraitant en fait de ces opérations exceptionnelles, effectivement, il y a un retour des investisseurs vers l'immobilier de santé. Alors moi, je l'interprète comme un changement progressif de l'allocation des investisseurs qui se désengagent du bureau, comme on sait, et qui vont vers des classes d'actifs comme les résidences étudiantes, qui sont des grandes classes d'actifs très à la mode aujourd'hui, l'hôtellerie, la santé, dans une moindre mesure la logistique. Et donc il y a une sorte de retour des investisseurs vers l'immobilier qu'on appelle opéré, l'immobilier basé sur l'immobilier que j'appellerais outil de travail, pour des opérateurs. Et donc la santé, c'est une des thématiques qui en profite le plus.
Donc c'est plus un choix par défaut que par amour.
Je dirais pas ça. Je dirais que c'est un vrai changement de thèse d'investissement, on pourrait dire. C'est-à-dire que le bureau a montré que il avait ses limites en termes de liquidité, en termes de résistance au cycle, etc. Et donc c'est le retour vers un immobilier qui est un peu moins cyclique. Ce qui veut dire d'ailleurs que les investisseurs ne cherchent pas à prendre plus de risques, mais plutôt à aller chercher la prudence là où elle est réellement.
Alors on va parler justement de ça, parce que dans l'immobilier de santé européen, il y a l'immobilier de santé français, qui se caractérise par un déficit d'une offre disponible face à une demande qui est croissante, ce qui implique des contraintes financières importantes pour les opérateurs. Est-ce que c'est un facteur de risque ou un facteur d'opportunité pour les investisseurs cette fois?
Alors peut-être il faut définir les segments dont on parle, puisque le principal segment, c'est ce qu'on appelle, ce que les anglo-saxons appellent les nursing homes ou les care homes, ou ce qu'on pourrait appeler en français le long séjour. Et puis il y a aussi un segment plus minoritaire qui est le court séjour, les cliniques. Et puis nous, chez Aurial, on a un concept de santé qui inclut également les laboratoires, qu'on appelle en anglais life science, puisque c'est la lingua franca. Et donc, si on parle des difficultés ou des problématiques des opérateurs, je dirais, en long séjour, je crois que c'est plutôt ta question.
Oui, il y a des EHPAD notamment, donc qui vont changer de nom prochainement, d'ailleurs.
Mais... Tout à fait. En fait, c'est l'enjeu de ces modèles économiques-là, c'est pas tellement la cyclicité de la demande. Ce qu'on sait, que ce sont des actifs qui répondent à des besoins. D'accord. C'est pas des actifs qui sont sensibles à l'emploi comme les bureaux, à la consommation comme le commerce. Ce sont des entreprises qui ont un business case, si j'ose dire, démographique qui est clair. Par contre, le sujet, c'est d'absorber les défis, notamment la masse salariale des soignants qui doit croître évidemment, l'amélioration des normes et en fait la problématique plus générale, c'est que aujourd'hui Les gens qui sont, par exemple, en EHPAD dont tu parlais, c'est ce qu'on appelle la génération silencieuse, la génération des parents des boomers. Et ce qu'on va vivre, ce qu'on a commencé à vivre à partir de 2025, puisque le baby boom c'est 2040, c'est 1945-1965, donc 80 ans après 1945, c'est 2025, et c'est donc l'arrivée dans le quatrième âge, la génération des baby boomers, dont on peut penser que les standards vont être assez différents de ceux de leurs parents, et donc il y a l'adaptation fondamentalement du marché à cette génération-là. Alors justement, Le vrai sujet de la France, à mon avis, c'est qu'il y a une sorte de binarité entre logement et EHPAD. Soit logement, soit EHPAD. Alors que ce qu'on voit dans d'autres pays, notamment anglo-saxons, c'est une segmentation beaucoup plus fine. Un parcours.
C'est ce que tu appelles le parcours de soins.
Le parcours du senior. C'est-à-dire le logement qu'on médicalise un peu, auquel on s'adapte, on va mettre des poignées pour s'accrocher, on va faire tout un tas d'aménagements de plein pied, etc. Il y a la résidence senior, je dirais l'intermédiaire entre finalement le logement et l'EHPAD, et ça c'est le segment qui doit être développé et qui ne peut l'être à mon avis que par le privé, notamment en France, et qui est plus développé à l'étranger qu'ailleurs. Et là encore, on a ce concept de maison de retraite générique, mais il y a plein de formules. Il y a le co-living senior sur lequel on a investi avec Cosima, il y a les villages de seniors, etc. Et puis enfin, il y a l'EHPAD, mais comme une brique, et donc il faut éviter à mon sens le tout EHPAD pour raisonner en termes de parcours du senior.
D'accord, donc ça c'est l'avenir. Je voudrais juste faire un petit point, on a très peu de temps, je voulais parler de la conjoncture économique évidemment. On sait qu'avec le contexte géopolitique et macroéconomique actuel, il y a des risques qui pèsent sur l'économie et notamment sur l'immobilier. Est-ce que, juste en deux mots, l'immobilier de santé serait plus impacté que l'immobilier en général ?
Historiquement, il est moins impacté parce que c'est, comme je le disais, une activité moins cyclique. Et l'incertitude qu'on a aujourd'hui, c'est est-ce qu'on va avoir une récession ou une inflation ou les deux, et quelle sera la politique de taux, parce qu'on sait que c'est au taux d'intérêt que les prix de l'immobilier sont les plus vulnérables. La réponse à ça, pour nous, c'est clairement la diversification à l'international, avec des taux, notamment les OAT à 10 ans, des taux souverains, des taux sans risque, qui sont très différents, avec une année électorale en 2027 pour la France, qui n'existe pas dans d'autres pays. Et donc, c'est par la diversification internationale qu'on peut mitiger ce risque de taux, pour moi.
Alors, on va parler justement des véhicules gérés par Eurial, dédiés à l'immobilier de santé. Il y a deux SCPI notamment, Pierdal Santé, un véhicule historique, un des premiers sur ce segment, et puis Eurial Horizon Santé, que vous avez lancé en 2025. Alors, le véhicule historique Pierdal Santé, on sait qu'il a connu une inflexion de son rendement depuis 2024, un coup d'arrêt en termes de collecte. Là, vous venez de publier les bulletins du premier trimestre 2026, vous en êtes où aujourd'hui ?
Alors, effectivement, tu as raison de parler de SCPI historique à propos de Pierdal Santé, parce que c'est là. Elle a été lancée en 2013, et c'est la cinquième SCPI du marché en termes de capitalisation. Donc c'est vraiment un des grands véhicules en fait du marché. Donc où est-ce qu'on en est concrètement j'avais fait le calcul d'ailleurs ce matin sur les 15 SCPI, je dirais, historiques les plus importantes. Il y en a trois qui n'ont pas baissé leur prix de part, dont Pierdal Santé. Et c'est vrai que notre gestion a été orientée vers le maintien du capital de nos clients, avec notamment une politique d'acquisition de VFA, de neuf, qui a été plus protectrice du capital, mais qui a été à l'origine de la baisse de rentabilité. Et donc aujourd'hui, nos efforts de gestion, qui par parenthèse sont importants, on a fait 500 millions d'euros d'opérations immobilières sur Pierdal Santé l'année dernière.
Hein, oui, ça reste très actif.
C'est extrêmement actif, de 250 millions d'euros de cessions, 160 millions d'euros d'acquisitions. Et donc, on est vraiment en gestion active, on pourrait même dire hyperactive de ce fonds. Et donc, les façons de revenir au rendement normatif, qui pour nous est supérieur à 4,50 sur ce fonds, ça va être la livraison des VFA, ça va être le refinancement, c'est-à-dire la renégociation des financements qui ont été contractés à un moment où les taux étaient plus hauts qu'aujourd'hui, et c'est la cession d'actifs pour réinvestir le produit de la vente dans des actifs qui aujourd'hui sont plus relutif.
D'accord, mais en termes de collecte, vous continuez à collecter, mais rien à voir avec les années précédentes.
Non, tout à fait.
Mais vous collectez.
Oui, on n'est pas du tout hors du jeu, et je dirais, on n'a pas envie, pour être un peu clair, d'être confondu avec d'autres SCPI qui sont hors jeu, et c'est pas notre cas. On est dans le jeu des SCPI historiques, et donc je dirais, on a vraiment cet horizon de revenir à un rendement normatif, de continuer à...
Justement, rendement normatif, là, aujourd'hui, enfin c'était 4,06 en 2025, ça veut dire que ça va remonter dans les avenirs.
Oui, tout à fait. Oui, on a des perspectives qui sont haussières en termes de revenus locatifs, en sachant que plus on collecte, mieux c'est pour la performance, mais évidemment c'est plus difficile de collecter avec un rendement facial, d'où un peu la discussion qu'on va avoir sur la présentation de la performance, la pédagogie, la conviction qu'on veut porter.
Avant ça, juste un mot là pour être justement plus positif sur Real. Donc la nouvelle SCPI, 10 millions de capi, elle a un TD cible de 7,5%.
16 millions.
Ça sera...
Oui, tout à fait. Alors, donc Real Horizon Santé qu'on a lancé en 2025, qui est une SCPI positionnée sur les segments qui sont complémentaires à ceux de Pierval Santé. Hein. Pierval Santé, c'est une SCPI qui est positionnée sur le long séjour, justement, on en parlait, et Real Santé, plutôt sur le court séjour et les laboratoires, avec une proportion d'actifs en Amérique du Nord, la plus révélateur.
Pas encore États-Unis,
justement. En Amérique du Nord, et notamment au Canada, où on a des relais assez, assez importants, de un tiers, enfin aujourd'hui, c'est même plus, hein, parce qu'on a acquis un laboratoire à Québec, deux actifs au Royaume-Uni. Donc c'est une SCPI donc qui a été lancée en 2005. Je dirais que c'est la seule néo SCPI santé aujourd'hui, hein, seule néo SCPI pure santé qui existe, avec un objectif de rendement pour cette année 2025 qui est de 7,50, mais un rendement en vitesse de croisière, c'est-à-dire sur 10 ans, 15 ans, puisque comme on va le dire, c'est la vraie mesure d'une SCPI qui doit être pour nous au-dessus de 5,50.
Alors, il nous reste une minute à peu près, donc j'ai juste la question sur, justement, on parlait de performance annuelle. On a l'impression, donc, que depuis l'introduction du PGA, qui d'ailleurs fait pas l'unanimité, que il y a aussi des réflexions en cours pour améliorer la transparence des indicateurs. On a l'impression qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué de juger de la performance sur le long terme du SCPI, parce que c'est le court terme qui domine. C'est quoi ta réflexion sur ce sujet?
Ma réflexion, c'est que, d'abord, sur le long terme, il y a des indicateurs, et notamment le TRI, qui lui, pour le coup, fait plutôt l'unanimité. Sauf qu'évidemment, il faut avoir une certaine durée
le
pour
problème,
que ce soit comparable.
Le problème, c'est que les CPI qui collectent, elles ont moins de 5 ans, et le TRI, tu commences à devenir crédible à partir de 5 ans.
Exactement. Mais je veux d'abord dire que, parmi les SCPI matures de 10 ans, justement, sur l'échantillon des 15 plus grosses capitalisations et plus anciennes capitalisations, le TRI de Pierval Santé, c'est 4,39, la moyenne étant à 3. Donc, sur le long terme, la vérité émerge. Sur le court terme, comment est-ce qu'on peut avoir une indication? La vérité, c'est qu'une SCPI, c'est multifactoriel. Mon expérience, c'est que c'est presque toujours l'adéquation entre la collecte et l'investissement qui fait, je dirais, presque la moitié de la performance, et l'autre moitié, c'est vraiment les indicateurs opérationnels. Le taux d'occupation financier, qu'on néglige un peu à mon avis, et la thèse d'investissement, tout simplement. Parce que si on fait des paris sur les bureaux du Grand Paris, c'est pas le même pari que si on fait un autre pari sur les retail parks ou sur les cliniques, etc. Donc, à la fin des fins, il n'y a pas un indicateur qui va vous donner la vérité immobilière. Vérité immobilière, elle est qualitative.
Ça dépend en fait du type de SCPI et de son âge, visiblement.
Et il ne faut donc pas s'interdire.